VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui. Jean-Roger Billon en direct de Washington. Nous sommes le lundi 12 février 2018, le sommaire. Jacob Zuma toujours sur la sellette en Afrique du Sud. Le sort du président sud-africain se joue à Pretoria où se réunit l'exécutif de l'ANC. Procès en masse de membres présumés de Boko Haram dans une base militaire du centre du Nigeria. Les charges contre l'opposant Bekele Garba ont été abandonnées en Éthiopie. Tournée du chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson au Proche-Orient. Et comme à l'accoutumée, rendez-vous dans 10 minutes avec l'économie et les sports. Eh bien, quel avenir pour le président sud-africain Jacob Zuma? L'ANC, le parti au pouvoir, s'est réuni à Pretoria pour décider de son sort. L'opposition, quant à elle, appelle à la dissolution du Parlement et des élections législatives anticipées pour sortir de cette crise. Raissa Girondin.
Les membres de la plus haute instance de décision de l'ANC, le Conseil national exécutif, se sont retrouvés pour finaliser la question du départ anticipé du président Jacob Zuma. Cette instance a le pouvoir de le rappeler comme elle l'avait fait en 2008 pour le président Thabo Mbeki. Cyril Ramaphosa, le nouveau dirigeant de l'ANC, et Jacob Zuma ont engagé la semaine dernière des négociations qui n'ont abouti à aucun résultat. Selon les médias locaux, le président tenterait d'obtenir l'immunité pour de nombreuses affaires de corruption. Il est toujours soutenu par un carré de fidèles. L'opposition, l'Alliance démocratique, qui a déposé une motion de défiance inscrite à l'ordre du jour du 22 février, a demandé la dissolution du Parlement et des élections législatives anticipées pour sortir de cette crise. Pour Kenneth Méchaud, le chef du Parti démocratique chrétien africain, il est important que le Parlement soit dissous pour rompre avec le cycle de corruption et tenir des législatives anticipées. Le second mandat de Jacob Zuma expire en 2019 et les prochaines élections législatives sont prévues normalement l'an prochain.
République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti historique de l'opposition, appelle à une mobilisation massive le 25 février. Ce sera à Kinshasa, la capitale, pour la marche du comité laïque de coordination, organisation proche de l'Église, s'opposant au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Les deux précédentes marches organisées par le collectif avaient été interdites et réprimées à balles réelles. RDC toujours, les États-Unis sont opposés au recours à un système électronique de vote pour les élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre. C'est ce qu'annonce l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. Washington souhaite le recours à des bulletins papier pour qu'il n'y ait pas de doute sur le résultat. En République centrafricaine, 5 personnes en procès à Bambari suite à la découverte de munitions et de drogue dans un camion affrété par Ecologue, une entreprise sous contrat avec l'ONU. Le jugement a été mis en délibéré et devrait être prononcé mercredi. 2 chauffeurs, 2 assistants et 1 passager sont accusés notamment de détention de munitions de chasse sans permis, de détention de chanvre indien et de détention de stupéfiants à Ipi dans le centre de la République centrafricaine. Au Nigeria, des centaines de membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram comparaissent devant un tribunal installé dans une base militaire. Ce procès qui se tient dans le centre du pays vise à déterminer s'ils seront condamnés, innocentés ou envoyés dans des centres de réhabilitation. Le point avec Salwa Jafari.
Très peu de détails sur ce procès, aucune information sur la durée des audiences. On sait toutefois que des centaines d'anciens membres présumés de Boko Haram seront à la barre et que le ministère de la Justice a assuré que certaines ONG et certains médias pourraient avoir accès à la salle cette fois-ci. Lors de la première audience en octobre, 1669 personnes étaient présentes à Kanji, une ville reculée de l'État du Niger, dans le centre du pays. Le ministère nigérian de la Justice avait annoncé la libération de 468 suspects. 45 ont été condamnés à des peines allant de 2 à 15 ans de prison et 28 ont été envoyés dans d'autres juridictions. 82 personnes avaient plaidé coupables en échange d'un assouplissement de peine. Certaines ont été relâchées après des années en détention. L'armée nigériane a souvent été accusée d'arrestations arbitraires de civils détenus pendant des années sans procès ni accès à un avocat. L'insurrection de Boko Haram qui dure depuis 2009 et sa répression ont fait au moins 20 000 morts et quelques 2,6 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria.
Le premier ministre malien Soumaïlou Boubey Maïga a promis tous les moyens nécessaires pour la sécurisation du centre du pays. Il a aussi assuré que le premier tour de l'élection présidentielle se tiendrait le 29 juillet. Le chef du gouvernement, qui effectuait sa première visite à l'intérieur du pays depuis sa nomination le 30 décembre, avait annoncé en janvier le lancement d'une vaste opération pour sécuriser le centre du pays où les groupes djihadistes sont particulièrement actifs. Au Soudan du Sud, le porte-parole des rebelles, James Gatdagh, a été condamné à mort pour trahison et d'autres crimes contre l'État, condamnation qui intervient un an après son expulsion du Kenya, où il avait obtenu le statut de réfugié. Ce jugement est prononcé alors que les négociations de paix entre le gouvernement sud-soudanais et les rebelles sont au point mort, les deux camps s'accusant mutuellement d'avoir lancé des opérations militaires l'un contre l'autre. L'Éthiopie a abandonné les charges contre l'opposant Bekele Garba, le vice-président du Congrès fédéraliste Oromo, OFC. Bénéficie de l'amnistie annoncée le 3 janvier par le premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn à l'égard de certains hommes politiques. Les précisions, Arzuma Compaoré.
La justice éthiopienne a abandonné les charges à l'encontre de sept suspects dont Bekele Garba. Le pouvoir d'Addis Abeba a décidé d'amnistier des hommes politiques pour construire un consensus national et agrandir l'espace politique selon la télévision d'État. Monsieur Bekele avait été arrêté en décembre 2015 à l'occasion de la répression des plus importantes manifestations antigouvernementales en Éthiopie depuis 25 ans. Ces manifestations, lancées par les Oromo, avaient été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Il y a eu au moins 940 morts, selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Monsieur Bekele est devenu un symbole de la cause des Oromo, le plus grand groupe ethnique du pays. Depuis l'annonce de l'amnistie, le président de l'OFC, Merera Gudina, emprisonné depuis 2016, a été libéré. Le gouvernement a annoncé la prochaine libération du blogueur Eskinder Nega et de l'opposant Andoualem Arage, arrêté en 2012.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a débuté une tournée au Moyen-Orient, ceci par une rencontre au Caire avec son homologue égyptien Sameh Shoukry, avant un entretien avec le président Abdel Fattah el-Sissi. Lionel Gaïma.
Un dîner, puis une tête-à-tête à huis clos avec son homologue avant de donner une brève conférence de presse.
Nous avons convenu que nous poursuivrions notre coopération étroite sur les mesures antiterroristes, y compris notre engagement commun dans la défaite de l'État islamique.
État islamique, mais aussi pour reprendre les mots du ministre des Affaires étrangères égyptien.
Nous avons discuté une fois de plus de l'importance de trouver une solution au conflit israélo-palestinien sur base d'une solution à deux États et de l'importance de la poursuite des efforts américains pour parvenir à une résolution finale.
Après le Caire, M. Tillerson doit se rendre au Koweït pour participer à une réunion ministérielle de la coalition internationale menée par Washington contre le groupe djihadiste État islamique en Irak et en Syrie.
Algérie, un millier de médecins résidents en grève se sont rassemblés à Alger, la capitale, en dépit de l'interdiction de manifestations dans la capitale. Cela fait 3 mois qu'ils sont en grève.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou discute depuis quelque temps avec l'administration américaine du projet d'annexer les colonies de Cisjordanie occupées. C'est ce qu'a déclaré un de ses porte-parole ce lundi. Les propos publiquement attribués à M. Netanyahou constituent la première expression de soutien de sa part à un projet défendu par de nombreux membres de son parti et de sa majorité parlementaire. Conflit en Syrie, les combats n'ont fait qu'empirer depuis que les Nations Unies ont réclamé, il y a une semaine, un cessez-le-feu d'un mois pour permettre la distribution d'aide humanitaire. C'est la mise en garde d'un responsable de l'ONU à Damas. Les Nations Unies avaient lancé mardi dernier cet appel urgent aux belligérants en Syrie, mettant en garde contre les conséquences désastreuses de la crise humanitaire qui ravage le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas appuyé cet appel par une résolution, mais doit examiner aujourd'hui un nouveau projet de texte concernant une trêve de 30 jours. Toujours en Syrie, 31 soldats turcs ont été tués depuis le début de l'offensive d'Ankara dans le nord-ouest de la Syrie. L'opération baptisée Rameau d'Olivier a été lancée le 20 janvier contre la milice kurde des unités de protection du peuple, YPJ, un groupe de la Turquie considéré comme terroriste, mais qui est soutenu par les États-Unis contre les djihadistes de l'organisation État islamique. Les djihadistes français Français arrêtés en Irak seront jugés sur place. C'est la réponse de Paris, alors que deux Françaises détenues à Bagdad pour avoir rejoint le groupe État islamique demandent l'asile en France. Paris dit toutefois s'opposer à ce que la peine de mort soit prononcée à leur encontre. Et puis, ouverture au Koweït d'une conférence sur la reconstruction de l'Irak, trois agences de l'ONU ont insisté sur l'urgence de l'aide à la population irakienne après la guerre contre le groupe État islamique. À la conférence de Koweït, l'Irak cherche à récolter environ 88 milliards de dollars pour sa reconstruction. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans tarder. Et sans tarder, sans transition non plus, un tour d'horizon de l'actualité économique en Afrique, la Minute Éco avec Raïssa Girondin.
Le Maroc a connu un nombre record de touristes en 2017 avec 11,35 millions de visiteurs, soit 10% de plus que l'année précédente, dépassant pour la première fois la barre des 11 millions. La croissance de ce secteur clé de l'économie marocaine intervient après plusieurs années de quasi-stagnation. Le tourisme marocain a notamment bénéficié en 2017 d'un renforcement des liaisons aériennes avec de nouvelles lignes vers l'Europe lancées par des compagnies low cost et plusieurs vols intérieurs opérés par la compagnie nationale Royal Air Maroc. Le Gabon a annoncé en fin de semaine dernière un plan de remboursement de 77% de sa dette intérieure. Cette dette de 405,3 milliards de francs CFA, selon le FMI, représentait 4,6% du PIB gabonais fin 2017. Le Gabon a par ailleurs une dette extérieure du même montant. Un premier décaissement de la moitié du remboursement promis devait être fait d'ici fin février sous la forme d'un financement bancaire, tandis que le remboursement de l'autre moitié devrait se faire sous la forme d'un rachat par les institutions bancaires ou financières locales dans un délai d'un mois. L'ex-présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf s'est vue décerner lundi le prix Mo Ibrahim 2017 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. Fondée par Mo Ibrahim, riche entrepreneur anglo-soudanais des télécommunications, le prix récompense un ancien chef d'État ou de gouvernement d'un pays d'Afrique subsaharienne qui a quitté ses fonctions au cours des trois dernières années pour son travail dans l'intérêt du public ou son action en faveur du développement durable.
Ce soir, nous retrouvons Eric Manirakiza pour votre page de sport. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
En football, demain et mercredi, la Ligue des champions reprend en Europe pour les huitièmes de finale.
Disons que c'est le vrai tournoi qui commence. Jean-Roger, deux chocs au sommet, Juventus-Tottenham, demain Real Madrid-Paris-Saint-Germain, mercredi à 20h45. Neymar est attendu au tournant contre son ex-rival du championnat d'Espagne. Les Madrilènes ont pratiquement tout raflé ces dernières années en Ligue des champions. Avec trois titres sur les quatre dernières éditions en face, le PSG domine logiquement le championnat de France, mais n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale, Jean-Roger.
Juventus-Tottenham, la vieille dame face à un ambitieux.
Le club italien est une vieille habituée de la compétition. Le vétéran Gianluigi Buffon sera dans les cages et rêve toujours de la Champions League, l'un des rares titres qui manque à son palmarès. Les Turinois vont donc affronter une équipe de Tottenham ambitieuse menée par l'attaquant anglais Harry Kane. Principale difficulté pour Tottenham, Jean-Roger, son manque d'expérience sur la grande scène européenne.
Et des sommes faramineuses dans les transferts, Manchester City et le PSG battent des records.
Aucun club dans l'histoire du football n'a dépensé autant d'argent en indemnité de transfert pour réunir son effectif que Manchester City. Les Citizens ont déboursé 878 millions d'euros au total, davantage que le PSG qui a versé 805 millions d'euros sur le marché. Deux autres équipes ont dépensé plus de 700 millions pour composer leur effectif actuel, Manchester United et Barcelone.
On termine ce sport avec la NBA.
Cleveland et LeBron James ont écrasé Boston 121-99 dans le choc de la conférence Est. New York a connu sa sixième défaite d'affilée contre Indiana 121-113. Dans la conférence Ouest, Jean-Roger, Houston a glané une huitième victoire de suite contre Dallas 104-97. Oklahoma City s'est défait de Memphis 110-92 en dépit de l'absence de ses stars Russell Westbrook et Carmelo Anthony. Oklahoma accueille Cleveland mardi lors de la prochaine journée et c'est tout pour l'espoir Jean-Roger.
Page d'espoir signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Georges Billon à ce micro, bienvenue. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, se réunit d'urgence à Pretoria pour finaliser, selon son chef Cyril Ramaphosa, la délicate question du départ anticipé du président de la République, le très controversé Jacob Zuma. Pour analyse sur le sort de Jacob Zuma, Idriss Fall a joint à Johannesburg Marc Bafou de l'African Diaspora Forum.
Aujourd'hui, c'est un débat houleux. En ce moment où je vous parle, le parti au pouvoir, donc l'ANC, est en conclave pour décider du sort de Jacob Zuma. Il y a à peu près 2 heures du temps, l'opposition a tenu une conférence de presse pour lancer un ultimatum à la présidente de l'Assemblée nationale que demain jusqu'à 10 heures, si elle ne décide pas sur la motion contre le président Zuma, ils vont approcher la justice. Et donc l'opposition demande qu'on dissout l'Assemblée nationale et qu'on reprenne les élections, qu'on fasse des élections anticipées. Mais en ce moment, tel que je le disais, l'ANC aussi est en conclave. Les quelques nouvelles que nous avons des médias qui sont sur place nous disent que Jacob Zuma a décidé de démissionner, mais il faut décider de qui est-ce qui pourrait assumer la transition. Et donc, c'est sur ce débat qu'ils sont en ce moment.
Et apparemment, donc, M. Zuma chercherait aussi à avoir des garanties pour son éventuelle impunité.
Justement, au fait, apparemment, ça fait partie de la discussion qu'ils ont en tant que parti politique. Mais seulement, ça paraît un peu difficile parce que avec Zuma, on dit qu'il y a à peu près 783 chefs d'accusation contre lui. Zuma a voulu faire comme... son ami, le président zimbabwéen, l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe. Mais le cas Mugabe ici, ce que les gens disent, c'est que c'est un peu différent parce que Mugabe n'a pas été poursuivi par la justice. Alors que dans le cas Zuma, il est en ce moment poursuivi. Il a 783 chefs d'accusation. Donc c'est un peu difficile. Mais ça peut être une décision politique. On attend de voir ce qui est sûr aujourd'hui. L'ANC doit finir la réunion et automatiquement, après leur réunion, cette nuit-là même, l'ANC doit se prononcer de tout ce qui devra suivre. Parce que l'ANC ne voudra pas des élections anticipées, l'ANC ne voudra pas dissoudre l'Assemblée nationale et donc des élections anticipées. Ça, ce serait plus compliqué pour eux.
Voilà, c'était Marc Bafou, le président de l'African Diaspora Forum, joint à Johannesburg.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, inquiétude face à l'insécurité croissante à Bukavu, dans la capitale du Sud Kivu, suite aux attaques de bandits armés et aux extorsions de biens et d'argent que subit presque quotidiennement la population. C'est la psychose donc dans la ville, particulièrement dans les milieux de changeurs de monnaie, victimes de braquages en plein jour. Reportage de notre correspondant sur place, Enes Mouero.
La dernière attaque en date remonte à la nuit du 8 février dans les quartiers Ponzi en commune d'Ibanda. Des hommes armés non identifiés ont attaqué 24 maisons et dépouillé certaines familles, transformant ces quartiers en un champ de tirs nourris à 3 heures du matin au moment de l'intervention de la police. La même nuit, une autre attaque au quartier Nkafu en commune, cette fois de Kadutu, a entraîné la mort d'un enseignant. Selon l'organisation locale Sagesek Force Vive, pour le seul mois de janvier 2018, il y a eu 20 personnes tuées et 36 maisons attaquées dans les trois communes de Bukavu. Ilunga, du Parti congolais pour le progrès, garde un souvenir amer de l'attaque survenue dans sa famille le 3 février vers 1h du matin au quartier Nyakaliba.
Ils ont escaladé le mur de ma clôture et pendant qu'ils forçaient les portes comme ça, j'ai tenté d'appeler presque tous les services en charge de la sécurité sans succès. Pendant ces 30 minutes, j'ai résisté. J'ai un bébé de 2 semaines. Ils ont jeté le bébé. Un de mes enfants était tombé évanoui.
De temps à autre, des corps sans vie sont découverts ça et Mandela dans la ville. D'autres victimes de cette insécurité sont surtout les cambistes. Le 25 janvier à 16h30, une attaque spectaculaire à la grenade en plein centre-ville a fait 2 morts et 17 blessés en face de la société Kotecha. Parmi les blessés figurent le président des cambistes et de cet axe, père de 9 enfants, qui a perdu ses 2 jambes et 3 doigts. Le coordonnateur provincial de l'association des cambistes de Bukavu, Justin Moussikano, interpelle.
Nous demandons aux autorités de nous garantir la sécurité. Depuis 2018, il y a 4 attaques. Et dans ces 4 attaques, il y a 3 morts, il y a 17 blessés et beaucoup de pertes de biens matériels, surtout de l'argent. Ce sont des gens qui viennent avec des armes et ils tirent des balles réelles sur les gens.
Christian Wanduma, membre du cabinet politique du gouverneur du Sud Kivu et coordonnateur de Bukavu Force Vive, une organisation spécialisée dans les questions sécuritaires.
Ceux qui ont braqué au niveau de Kotecha, il y a 4 qui ont été arrêtés. Ceux qui ont braqué Chikibongé, il y a déjà une dame et un type récupérés. Ça, ce sont les signes qui prouvent que les services s'y mettent pour remettre de l'ordre, mais pour que les services puissent réussir, ce soutien, cette collaboration de la population en est d'une grande contribution parce que la sécurité, c'est une affaire de nous tous.
Bien que la police ait déjà interpellé 10 des suspects en lien avec l'insécurité dans la ville, la psychose monte de plus en plus, personne ne se sent vraiment à l'abri. Le regard sont donc tournés vers la police et le nouveau gouverneur du Sud Kivu, Claude Nyamugabo, qui avait promis dans son discours programme le maintien de la sécurité parmi les axes prioritaires de son action gouvernementale. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. A très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Au Togo, fin hier à Lomé de la 2e édition du salon dit du mariage et des noces. Pendant 3 jours, des expositions, des articles de mariage, des conférences débats sur la séduction, entre autres, ont marqué l'événement. Reportage à Lomé de notre correspondante, Kay Lawson.
Le couple de l'acte 2 du salon du mariage et des noces s'avance sur le tapis rouge. Dans sa robe blanche, la mariée, au bras de son homme en costume gris, ce couple de circonstances donne envie à tout célibataire de dire oui. Ce salon n'est pas destiné qu'aux futurs mariés, souligne Sandrine Atamin, directrice du salon du mariage et des noces.
Pour une personne qui n'est pas encore mariée, on ne lui dit pas de venir sur le salon et se marier directement, non. Elle peut peut-être déjà venir voir. Elle peut s'inspirer et trouver elle-même des idées pour son mariage, même si ce n'est pas maintenant, c'est peut-être dans 5-10 ans. Maintenant, pour quelqu'un qui est déjà marié, l'intérêt de venir, on se dit généralement qu'une fois marié, tout est acquis, on n'a plus rien à apprendre. Mais c'est faux. Il y a justement ces professionnels-là qui sont venus nous dire non, ça ne s'arrête pas là. Il y a une vie après le mariage. Il faut justement pimenter cette vie de couple.
Du 9 au 11 février à Lomé, le salon du mariage et des noces a permis de rassembler des professionnels de la chaîne de l'un des événements les plus importants de la vie d'un individu, le mariage. Au total, 3 conférences-débats ont meublé cette 2e édition de ce salon. L'une de ces conférences a eu pour thème « Comment réussir un beau et heureux mariage ». À l'issue de cette conférence, Alessandre de Souza, marié de son état, a retenu quelques astuces pour vivre dans le bonheur avec son âme sœur.
Le bonheur, c'est une recherche, c'est un objectif, c'est quelque chose à atteindre. Il faut toujours vouloir, il faut toujours s'améliorer. Et donc, c'est d'essayer toujours de vivre dans cet amour-là, toujours se rappeler les premiers jours, faire des choses ensemble. Et donc, quand on prépare bien son mariage et qu'on vit son mariage dans l'amour, on ne peut qu'être heureux.
Au Togo, 3 types de mariages sont courants. Il s'agit du mariage religieux, du mariage civil et du mariage coutumier communément désigné la dot. Contrairement à une croyance populaire, la dot ne conditionne pas le mariage à l'état civil, nous dit Valentin Adjawinou, président de la délégation spéciale du 1er arrondissement de la ville de Lomé.
La dot est considérée comme un honneur que l'homme fait à la famille de sa partenaire. Donc la dot, c'est symbolique. Et c'est pourquoi le législateur l'a fixé à 10 000 francs CFA. Le fait de ne pas donner la dot ne constitue pas un frein au processus de mariage.
En un an, le taux de mariage célébré dans la commune de Lomé a connu une hausse de 25%. De 2200 en 2016, Le nombre de mariages célébrés est passé à 2750 en 2017. Ce chiffre n'était que de 1049 en 2011, toujours dans la commune de Lomé. Kailosson, depuis la capitale togolaise, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Maroc, les mouvements de protestation sont de plus en plus nombreux. Les citoyens veulent marquer leur ras-le-bol et mettre en avant leurs revendications qui ne cessent de gonfler d'Al-Hoceima à Djerada en passant par Zagora. Pour comprendre l'origine de cette grogne sociale, Dilidiko a joint Mohamed Benamou. Il est le président du Centre marocain d'études stratégiques à Rabat.
Ce sont des protestations essentiellement à base sociale et économique qui touchent certaines régions qui ont été un peu défavorisées sur le plan du développement national. Et pour certains, c'est aussi un problème de reconversion de ces zones. C'est le cas, par exemple, de ce qui se passe à Djerada, où donc une zone minière, après la fin donc de l'exploitation de la zone minière, il n'y a pas eu une reconversion de cette zone, ce qui la rend aujourd'hui, sur le plan économique, une zone de crise.
Alors, ces derniers temps, il y a un regain des manifestations pacifiques. Donc, la dernière datant de dimanche, vous l'avez dit vous-même, à Djerada. Comment expliquer ce regain? Est-ce quelque chose de nouveau ou les contestations ont toujours fait partie de l'histoire du Maroc?
Ce qui se passe aujourd'hui à Djerada est quelque chose qui, bien sûr, s'inscrit dans un contexte qui a connu donc des protestations essentiellement dans la zone du Rif. Et on le sait, il y a aujourd'hui un développement économique au Maroc important et il y a des aspirations et des attentes des citoyens qui grandissent, et c'est normal. Il y a beaucoup d'attentes de la part donc des jeunes en termes d'emploi et aussi pour l'ensemble de la population, tout ce qui touche les infrastructures socio-économiques et ce qui peut continuer à donner à ces zones une viabilité et les rendre pour les habitants plus agréables à vivre.
Que font les autorités marocaines pour répondre aux préoccupations des citoyens de ces zones marginalisées ?
Le gouvernement aujourd'hui a annoncé quelques projets, mais il faut aussi prendre ces réponses dans un cadre beaucoup plus global. Et il y a des projets qui ont été initiés et qui ont mal démarré, ou certains qui sont en cours, mais les attentes des citoyens donc ont une certaine urgence. Et il faut bien sûr que le gouvernement accélère le rythme et, d'un autre côté, qu'il apporte des réponses beaucoup plus spécifiques à chacune des régions en termes de protestations qui attendent donc des réponses spécifiques.
Mohamed Benamou, le président du Centre marocain d'études stratégiques, joint à Rabat.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Point final donc à ce numéro du Monde aujourd'hui. Joselle Maurice a assuré la mise en onde. Joe Gill était à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jean-Roger Billon à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.